Les évangiles des dimanches de Pâques ne nous rapportent pas seulement les apparitions du ressuscité. Elles ne sont pas si nombreuses. Il faut aussi que résonne à nos oreilles, mais dans une ambiance pascale, les paroles fortes de Jésus, comme aujourd'hui, ce commandement de l'amour. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Notez qu'il ne s'agit pas ici de l'amour des ennemis ou de l'amour de tous, de tout le monde, mais de l'amour symétrique, réciproque, que les disciples doivent avoir les uns pour les autres, et par suite, l'amour des chrétiens entre eux, des frères entre eux, des sœurs d'une communauté, des paroissiens d'une paroisse. Le commandement de l'amour, c'est un peu notre carte d'identité à nous, chrétiens. L'amour, c'est quand même la note fondamentale du christianisme. C'est le testament que Jésus laisse aux siens au moment où il va les quitter pour qu'en s'aimant les uns les autres, ils manifestent au monde que Dieu est amour. Aimez-vous les uns les autres, a dit Jésus. Voyez comme ils s'aiment, dira-t-on, des premiers chrétiens. Mais qu'en est-il 2000 ans après? Qu'en est-il pour nous aujourd'hui de ce commandement, de cette « aimez-vous les uns les autres » Qu'avons-nous fait du commandement nouveau? Le commandement de l'amour n'est-il pas devenu, comme dit le rabbin Delphine Horwiller, la tarte à la crème des religions monothéistes? Une sorte de slogan usé jusqu'à la corde que l'on ne questionne même plus. Un mantra chrétien qu'on se répète sans trop y croire. Qu'avons-nous fait de l'agapé, vidé de son éros, transformé en charité, en gentillesse bienveillante, condescendante, alors qu'elle désigne le Dieu vivant? Aimez-vous les uns les autres, c'est bien beau, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. On ne sait pas trop quoi faire avec ce commandement. Eh bien, le mettre en pratique, me direz-vous. Oui, mais comment? Avec l'hymne à la charité de 1 Corinthiens 13, on a le mode d'emploi, mais on ne sait pas s'en servir. L'amour rend service, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne se réjouit pas du mal, l'amour supporte tout, fait confiance en tout, espère tout, endure tout. Oui, si nous faisons cela, nous nous aimons les uns les autres. Et parce que nous nous aimons les uns les autres, nous faisons cela. Oui, mais reconnaissons-le, on n'y arrive pas. Alors pourquoi? Pourquoi n'y arrive-t-on pas à s'aimer les uns les autres? Eh bien, je crois que c'est par peur. Je crois que c'est la peur qui nous retient, la peur, oui, de nous aimer les uns les autres, et la peur de la trahison. Car il ne vous a pas échappé, je pense, que ces paroles n'ont pas été prononcées sur les vertes collines de Galilée, au bord du lac, au retour d'une pêche miraculeuse, mais au cours du dernier repas, au cours de la dernière scène. Et ce n'est pas le moment le plus bucolique des évangiles, vous en conviendrez. C'est le moment où Judas sort dans la nuit pour trahir Jésus. Le trahir par un baiser et le livrer à la mort. Quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié » et c'est presque aussitôt qu'il ajoute « Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous » Il y a, frères et sœurs, un double rapprochement à faire. D'abord, entre la trahison et la gloire, et entre la gloire et l'amour. La trahison de Judas ne déclenche pas seulement le drame de la glorification de Jésus, elle est la glorification de Jésus, et non seulement la sienne, mais celle du Père glorifié en lui, car en donnant sa vie pour nous, Jésus glorifie le Père, c'est-à-dire qu'il révèle la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, comme dit Éloi Leclerc, c'est la splendeur de l'agapé, la splendeur de l'amour. C'est la tendresse, l'amour du cœur de notre Dieu qui doit se diffuser dans le cœur des disciples, dans nos cœurs, se prolonger dans l'amour fraternel. Mais, parce que Judas a refusé l'ultime appel que Jésus lui adressait en partageant une dernière bouchée avec lui, cet amour fraternel est marqué à jamais par la hantise d'une trahison, la peur d'un refus, la crainte de l'abandon. Il y a là quelque chose qui, mystérieusement, métaphysiquement peut-être, pèse sur toutes nos relations humaines, sur nos amours, sur nos amitiés, sur nos fraternités, aussi réussies, aussi belles soient-elles, planera toujours l'ombre portée de la trahison de Judas. Frères et sœurs, si après le départ de Judas, Jésus donne le commandement de l'amour aux disciples qui lui restent, pensez qu'il y en avait quand même 72 au départ, eh bien c'est parce qu'il perçoit en eux les mêmes failles, les mêmes faiblesses qu'en Judas qui va le livrer. Et seule la parole désarmée et désarmante de Jésus, seule cette « aimez-vous » leur donnera la possibilité de transformer ces failles et ces faiblesses en puissance d'aimer, en surcroît de vie et de résurrection, sans peur de trahir ou d'être trahi. car le commandement de l'amour n'est pas une sommation à la vertu. C'est l'antidote du refus de l'amour, le contrepoison le plus puissant que Jésus nous ait laissé. Pour vaincre la maladie, les maladies de l'amour, à condition de bien vouloir risquer notre vie, car aimer, c'est risquer sa vie, c'est risquer un peu de sa liberté, mais c'est surtout risquer sa vie, rien que sa vie, mais toute sa vie. Car en effet, il s'agit bien d'aimer comme Jésus nous a aimés, en livrant sa vie pour nous. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimez-vous d'un amour sincère, ne soyez pas des Judas.